Je vous souhaite une très bonne matinée. Et nous avons à cœur de voir plus clair quant aux événements prophétiques à venir. Et j'aimerais donner dans ce séminaire, le matin et l'après-midi, donc une vue générale, une esquisse des événements prophétiques à venir. Quand on veut obtenir une vue générale de la prophétie biblique, il faut connaître bien, à fond, un chapitre de l'Ancien Testament qui est en quelque sorte le clé pour comprendre toute la prophétie biblique. Et c'est le chapitre de Daniel 9, avec les semaines de Daniel. Je lis en Daniel 9 et au verset 24. C'était à la fin des 70 années de l'empire mondial de la Babylonie. Et là, Daniel obtient une prophétie concernant les 70 semaines d'années qui vont venir. Comprends donc la parole et sois intelligent dans la vision. 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur ta sainte ville, pour clore la transgression et pour en finir avec les péchés, et pour faire propitiation pour l'iniquité, et pour introduire la justice des siècles, et pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Nous voyons, après les 70 ans de la gloire de la Babylonie, le peuple juif avait, comme nous avons vu hier soir, la possibilité de retourner de la captivité pour aller au pays pour rencontrer le Messie. Ce n'était pas encore la fin des temps. Et voilà, Daniel, à la fin de la captivité babylonienne, reçoit cette prophétie de 70 semaines d'années qui vont venir, et à la fin de ces 70 semaines d'années, donc, l'accomplissement de toute la prophétie, l'accomplissement de tous les conseils de Dieu quant à la terre seront accomplis, seront venus. Voyez donc 70 semaines déterminées sur ton peuple, le peuple juif, sur ta sainte ville, Jérusalem, pour clore la transgression, donc la transgression du peuple d'Israël prendra fin, pour finir avec les péchés, donc c'est à peu près la même chose, et pour faire propitiation pour l'iniquité, Israël, le résidu d'Israël qui entrera dans le royaume glorieux du Messie, obtiendra un parfait pardon pour introduire la justice des siècles, la justice éternelle. Donc, le Messie va venir et il va introduire la justice divine dans ce monde et pour sceller la vision et le prophète, puisque toute la prophétie biblique va s'accomplir quant à cette terre, elle sera scellée. Et pour oindre le Saint des Saints, donc un nouveau temple va être oint. Il s'agit ici d'ailleurs du troisième temple au millénium, au temps du règne du Messie. Dans ce chapitre de Daniel 9, nous trouvons tous les trois temples de l'histoire juive. N'est-ce pas? Déjà dans la prière, Daniel mentionne le premier temple qui était en ruine. Cela, vous pouvez trouver au verset 17. Et nous allons voir au verset 26 que le deuxième temple est annoncé, qui va être détruit. Et voilà ici, au verset 24, il s'agit du dernier temple. Après 70 semaines d'années, c'est le troisième temple qui sera oint. C'est une expression assez intéressante puisque dans l'histoire, le premier temple était oint par l'huile qu'avait déjà utilisé Moïse pour oindre le tabernacle. Mais le deuxième temple n'a jamais été oint d'huile, puisqu'on n'avait plus la bouteille de l'huile de Moïse. Donc le deuxième temple n'avait jamais été oint. Et ici, prophétiquement, il est question d'un temple futur qui sera de nouveau oint. C'est le troisième temple. Eh bien, nous lisons sur les feuilles, j'ai cité les versets qui vont suivre, Daniel 9, 25 à 27. Et je propose de prendre une seule traduction, très littérale, parce que ça va nous résoudre à l'avance des problèmes. Nous allons voir pourquoi, j'expliquerai. Verset 25, « Et sache et comprends. » Donc, il faut aussi que nous sachions, que nous comprenions, « Depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem, jusqu'au Messie, le prince, il y a 7 semaines et 62 semaines. » Alors, nous voyons, nous avons clairement un point de départ, la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem. Et un autre point dans l'histoire, dans le temps, jusqu'au Messie, le prince. Et entre ces deux événements, il y a donc un espace de 7 et 62, donc 69 semaines. Nous avons bien compris. Eh bien, quand est-ce qu'il y a eu une telle parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem? Eh bien, en Néhémie 2, donc après la captivité babylonienne, le roi Artaxerxès de la Perse, a donné la permission aux Juifs de rebâtir Jérusalem. Et voilà, nous pouvons exactement dater cela, puisque le texte biblique en Néhémie 2 le met en la 20e année d'Artaxerxès, au mois de Nissan. Et Nissan correspond chez nous mars-avril. Et la 20e année d'Artaxerxès était l'an 445 avant Jésus-Christ. Cela, nous pouvons assez facilement établir par l'histoire séculière. Alors, il faut encore voir le moment, quand est-ce que le Messie est venu comme prince? N'est-ce pas, il y a là un accent, le Messie vient comme prince. Eh bien, il y a un seul moment dans la vie du Seigneur Jésus où il s'est présenté comme prince, c'était l'arrivée en tant que Messie prince, le dimanche des rameaux, décrit entre autres en Jean 12. Là, il est entré à Jérusalem comme prince, comme Messie prince. Et cela a eu lieu également au mois de Nissan, mars-avril, puisque c'était le mois de la Pâque, c'est Nissan, en hébreu. Et cela à l'an 32 après Jésus-Christ. Pourquoi je dis 32, puisqu'il y a des lexiques qui disent l'année de la crucifixion c'était 30 ou 33? Je vous explique. En Luc 3, verset 1er, nous trouvons le fait que Jean-Baptiste et ensuite le Seigneur Jésus a commencé à se montrer dans le public dans la 15e année du règne de l'empereur Tibère. Eh bien, vous pouvez prendre n'importe quel lexique et voir Tibère, il a régné à partir de 14 après Jésus-Christ. Donc la 15e année nous amène à l'an 29. Luc 13, 6 à 9, dans cette parabole, le Seigneur parle de ces 3 ans pendant lesquels il a cherché du fruit en Israël, en exerçant son service de prédicateur en Israël. Donc 29 et 3 nous amène à l'an 32 après Jésus-Christ. Et voilà, entre ces deux événements, mars-avril 445 avant Jésus-Christ jusqu'à mars-avril 32 après Jésus-Christ, on devrait placer les 69 semaines. Et maintenant, j'explique le terme technique semaine, en hébreu Shavua. C'est donc une unité de 7. Vous voyez, le nombre 7 en hébreu, c'est Sheva. Shavua vient de Sheva. C'est une unité de 7. Normalement, c'est une unité de 7 jours, donc une semaine de jours. Et ici, dans ce contexte-là, le terme est utilisé comme une unité de 7 années. Donc, c'est pour ça qu'on peut parler mieux de semaine d'années. Donc, une semaine dure 7 ans. Et les années prophétiques durent dans la Bible 360 jours. D'où est-ce que je tire cela? Par exemple, Apocalypse 11, 2 à 3 parle des 3 ans et demi de grande tribulation avant la venue du Seigneur Jésus comme juge du monde. Et cette période est donc donnée en Apocalypse 11 comme 42 mois, 3 ans et demi, ou 1260 jours. Et ça met en évidence qu'un mois prophétique dure 30 jours. Donc une année prophétique, 360 jours. En quelque sorte, c'est une année lunisolaire. N'est-ce pas? L'année lunaire dure 354 jours. L'année solaire à peu près 365. Donc au milieu, nous avons l'année lunisolaire, 360 jours. Donc nous pouvons faire un calcul. 69 fois 7 fois 360 jours font 173 880 jours. Et il est remarquable, on peut placer sans problème exactement ce nombre de jours entre mars-avril 445 avant Jésus-Christ et mars-avril 32 après Jésus-Christ. C'est fantastique. Et le premier qui a fait le calcul exact dans le détail, c'était Sir Robert Anderson. C'était le chef de Scotland Yard au 19e siècle. C'était un croyant de l'église des Frères Larges. Donc, il était vraiment le bon type de personne pour faire ses recherches, n'est-ce pas? Et il a travaillé ensemble avec le centre astronomique Royal Observatory à Greenwich, et il a bien présenté cela dans son livre « The Coming Prince ». Alors, ça montre qu'on peut effectivement prouver par la prophétie de l'Ancien Testament que Jésus est le Messie annoncé par les Écritures. Et cela, c'est simplement une des plus que 300 prophéties accomplies en la personne de Jésus de Nazareth. Dans mon livre « Jérusalem et le drame du Temple », je donne aussi le calcul dans le détail qu'on pourrait le refaire pour trouver ce nombre de jours entre ces deux événements tellement importants dans l'histoire sainte. Eh bien, nous continuons à lire dans le texte. La place et le fossé seront rebâtis, et cela en des temps de trouble. N'est-ce pas? Lorsque Néhémie a essayer de reconstruire Jérusalem à l'époque, 445 avant Jésus-Christ, c'était un temps très dur. Donc, beaucoup de résistance anti-juifs au pays, mais ils ont quand même eu la force pour achever le travail. Mais c'était un temps de trouble. Lisez le livre de Néhémie. Et nous continuons dans le texte. Et après les 62 semaines, le Messie sera retranché et n'aura rien. N'est-ce pas? Cette période est coupée en deux, 7 et 62 semaines. Et nous avons compris, ça veut dire donc 69 semaines. Mais pourquoi c'est coupé en deux périodes? Donc, la première partie, les 7 premières semaines d'année, était la période pendant laquelle Jérusalem a été complètement, parfaitement rebâtie. Et d'après les récits historiques, on peut affirmer que après 49 ans, après l'événement de 445 avant Jésus-Christ, Jérusalem était rebâtie complètement, parfaitement. Voilà le chiffre 7 est symbolique dans la Bible pour la perfection. Et vous voyez comme donc un chiffre symbolique en même temps peut être un chiffre littéral. Alors, c'était quand même important cette indication parce que l'édit d'Artaxerxès pour rebâtir Jérusalem n'était pas le seul dans l'histoire. Déjà avant lui, le roi Cyrus, c'était le roi perse qui avait conquis l'empire babylonien à 538, lui également avait donné la permission aux Juifs de reconstruire Jérusalem et même reconstruire le deuxième temple. Lisez Esdras 1. Alors, comment savoir depuis quel moment de la sortie d'une parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem, il fallait compter les semaines de Daniel? Eh bien, après cet événement où, 49 ans plus tard, Jérusalem sera de nouveau une ville complètement, parfaitement rebâtie. Cela n'était pas le cas 49 ans après l'édit de Cyrus. Car, vous pouvez lire dans le livre de Néhémie, même donc, plus que 100 ans après, 100 ans après l'édit de Cyrus, Jérusalem était pas rebâtie et il y avait pratiquement, Néhémie 7, pratiquement pas de maison. Le temple était rebâti, mais pas la ville. Pratiquement pas de maison. Et les murs étaient toujours pas reconstruits. Alors, cela nous aide à comprendre que déjà, dans la période de l'Ancien Testament, on était capable de décider s'il fallait calculer depuis Cyrus ou depuis Artaxerxès. Donc, 49 ans après l'édit d'Artaxerxès, Jérusalem était une ville parfaite. Et il ne fallait pas attendre jusqu'à ce que l'accomplissement des 69 semaines s'est fait et que le Messie soit venu pour réaliser depuis quel moment on aurait dû calculer. Donc, cette première période de 49 ans, 7 semaines d'année, était excessivement importante pour, déjà, dans cette période, dans ce temps-là, pour, déjà, dans cette période, dans ce temps-là, bien pouvoir placer le calcul. Donc, il y avait les 7 semaines d'année et ensuite les 62 semaines. Et notre texte, en Daniel 9, 26, précise maintenant, et après les 62 semaines, qui avaient suivi, bien sûr, les 7 premières, vous comprenez? Et après les 62 semaines, le Messie sera retranché et n'aura rien. Nous avons vu exactement à la fin des 69 semaines, le Messie a dû venir comme prince. N'est-ce pas? Depuis jusqu'au Messie le prince. Donc le Seigneur est entré le dimanche des rameaux comme Messie prince et c'était le 173 880e jour après l'édit de Artaxerxès. Et après, il a dû être retranché. Maintenant, dans la rétrospective, nous pouvons dire, oui, c'est vrai. 5 jours après dimanche des rameaux, le Messie a été cloué à la croix, rejeté par la Cour suprême juive et crucifié par les Romains devant les portes de Jérusalem. Donc c'est une prophétie où Jérusalem, n'est-ce pas, est dans le centre. La reconstruction, la venue du Messie, la mort du Messie. Retranché et n'aura rien. Donc le Messie, après 69 semaines d'années, n'aura pas un royaume de paix sur la terre. N'aura rien. Pour beaucoup de juifs orthodoxes aujourd'hui, c'est un problème de croire que Jésus est le Messie parce qu'ils disent, s'il était le Messie, on n'aurait pas eu 2000 ans de guerre encore. Alors on doit leur expliquer, non. Si on avait eu de la paix depuis 2000 ans, il n'était pas le Messie. Parce que la prophétie dit, le Messie sera retranché et n'aura rien. Pas de royaume de paix. Rien. Donc, puisqu'il y a 2000 ans, il n'y a pas eu de la paix, Jésus est le Messie. Et nous continuons dans le texte, Daniel 9, 26b. Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint. Il n'est pas dit combien de temps après, mais le terme « et » signale que c'est un événement qui aura lieu dans la suite de la mort du Messie. Le peuple, un peuple viendra pour détruire de nouveau Jérusalem et le lieu saint, donc le deuxième temple. Donc on a pu savoir sur la base de Daniel 9, que le deuxième temple, qui était si splendide à l'époque des évangiles, c'est le plus splendide bâtiment du monde entier, devait être détruit. Le deuxième temple n'était pas destiné pour rester à toujours. Et Jérusalem, la ville sainte, a de nouveau dû subir une destruction totale. Voilà, c'était à l'an 70 après Jésus-Christ que les Romains ont détruit Jérusalem et le deuxième temple. Donc le peuple du prince qui viendra, c'est le peuple des Romains. Mais qui est ce prince de ce peuple qui viendra? Eh bien, en Daniel 7, vous avez cette merveilleuse prophétie concernant les empires du monde. D'abord, la Babylone, qui sera jugée par la Perse, par l'empire Médo-Perse, et ensuite, ce royaume lui-même devait être jugé par l'empire grec, Alexandre le Grand. Et ensuite, il y aura un quatrième empire, c'était l'Empire romain. Et Daniel, dans sa vision, voit l'histoire de l'Empire romain comme un tout jusqu'au dernier jour. Il le représente dans son texte comme une bête terrible avec 10 cornes. Il faut bien comprendre, cette bête est vue beaucoup plus tard, de nouveau par Jean, l'apôtre à Patmos, vers 95 après Jésus-Christ. Il a vu cette bête, en Apocalypse 13, verset 1er, sortir de la mer avec 10 cornes. Et au chapitre 17, 8 de l'Apocalypse, Jean apprend, cette bête était, n'est plus, et elle va revenir pour aller à la perdition. Donc, il a appris qu'il y aura comme les trois stade dans la grammaire, passé, présent, futur, trois phases de l'Empire romain. Donc, un empire dans le passé, après plus rien, elle n'est plus, elle n'est pas, et elle reviendra. Donc, l'Empire romain reviendra à la fin des jours. Et Daniel, dans sa vision, ne voit pas les trois phases, il voit ça comme une unité. Et il montre comme il y aura un prince terrible qui se révoltera contre Dieu dans les derniers jours. Et c'est ça le prince à venir. Donc un dictateur sur les pays qui feront partie de l'Empire romain des derniers jours. Donc, l'Europe a connu une période de l'Empire romain. Il a été effacé dans l'histoire. Et ça devrait revenir, cette unité de ce continent, dans les derniers jours, les jours où Jésus-Christ va revenir comme juge du monde. Et là, tout à la fin, il y aura une dictature, le prince à venir. C'est pour ça, dans Daniel 9, il est question de cette personne, comme s'il était déjà connu, cette personne. Mais Daniel écrit dans son texte, ce n'est pas le prince qui viendra qui détruira la ville et le lieu saint. C'est le peuple du prince qui viendra. Vous comprenez? Donc c'est le peuple romain qui détruira la ville et le lieu saint, et ça s'est accompli à l'an 70. Donc, comme juif, à l'époque, on a pu savoir, à la fin de la période du deuxième temple, le Messie viendra et sera tué, et le deuxième temple sera détruit, et aussi Jérusalem. On a des preuves extra-bibliques de l'époque, même des écrits de la littérature romaine qui montrent qu'à l'époque au premier siècle après Jésus-Christ, on a compris cette prophétie et qu'on a fait donc ce calcul que le Messie devait venir dans cette période du premier siècle. Et cela explique pourquoi il y avait une telle attente messianique déjà au premier siècle avant Jésus-Christ. Par exemple, à Qumran, les écrits de Qumran le prouvent. C'était vraiment une période de tension et d'attention pour la venue du Messie. C'était parce qu'on a fait le calcul. Et on savait au premier siècle après Jésus-Christ, le Messie devait venir. Et nous savons qu'il est vraiment venu. J'ai dit, il est bien de suivre une traduction très littéral, parce que si vous regardez dans votre Bible, ça peut être le cas que votre texte dit en Daniel 9, 25, à peu près, « Depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem, jusqu'au Messie le prince, il y a 7 semaines. » Point. Et pendant 62 semaines, c'est rétabli, etc. Il y a plusieurs traductions qui coupe la phrase comme ça. Mais il faut savoir, dans le texte hébreu, on n'a jamais eu de virgule et de point. Donc, les virgules et les points, c'est toujours une interprétation. Mais il faut savoir que la plus ancienne traduction de l'Ancien Testament, la traduction grecque, la Septante, au 3e siècle avant Jésus-Christ, avait déjà compris que la phrase va plus loin. Il y a 7 semaines et 62 semaines. Et pourquoi on a mis le point comme ça? Vous voyez, dans les textes hébreux du Moyen-Âge, les grands savants juifs, ils ont mis presque pour chaque mot un signe, comment il faut chanter en lisant le texte à la synagogue. Et ces signes musicaux ont aussi un sens de structuration du texte. Et voilà, là, il y a, après 7 semaines, il y a un atnach. C'est un signe musical qui désigne une coupure, Parfois, ça peut être à la fin d'une phrase, et parfois, ça peut être une coupure qui, dans le sens de la phrase, n'est pas à ressentir. Vous voyez? Alors, c'est pour ça que plusieurs traducteurs, et je dois dire, normalement, les traducteurs, ils ne connaissent pas tellement les signes musicaux. Alors, on apprend « atnar », c'est « coupure », alors ils mettent « point ». Et ils ne font pas attention que c'est beaucoup plus subtil. Et c'est tout d'abord musical et pas grammatical. Alors, vous avez le choix. Mettre le point après 7 semaines et la prophétie s'est jamais accomplie dans l'histoire. Il n'y a aucune possibilité de voir une réalisation de ce texte. Ou de mettre le point comme on l'a mis et comme la première traduction avant l'ère chrétienne a déjà compris le texte. Et là, c'est un accomplissement à la lettre, avec les 173 880 jours. Donc c'est assez facile, n'est-ce pas? Alors, nous continuons au verset 26. Ayant dit, le peuple détruira la ville et le lieu saint. Il est dit ensuite, et la fin, on sera avec débordement. C'est un peu mystérieux le texte, n'est-ce pas? La fin, on sera avec débordement. Donc, cette destruction de la ville et de Jérusalem devrait être un jugement de Dieu pour le rejet, pour la mort du Messie. Mais c'est seulement le commencement d'une série de jugements. Alors le texte dit, détruire la ville et le lieu saint, et la fin en sera avec débordement. Donc la fin de cette série de jugements sur le peuple juif en sera avec débordement. Restons dans le texte de Daniel et nous allons trouver ce débordement en Daniel 11. Je peux vous expliquer. Daniel 11, les versets 1 à 35, c'est accompli à la lettre au passé. J'ai une fois compté, on y trouve environ 150 prophéties accomplies qu'on peut vérifier par l'histoire séculière. Et à la fin du verset 35, il est dit « Jusqu'au temps de la fin, car ce sera encore pour le temps déterminé. » Et ce qui suit n'est pas du tout accompli. Donc vous comprenez, ici à la fin du verset 35, le prophète fait un saut vers les derniers temps. Et il est vrai, lorsque vous lisez de ce roi au verset 36, il est dit de lui, en rapport avec lui au verset 40, « Et au temps de la fin, le roi du Midi heurtera contre lui. » Alors, nous sommes déjà dans les derniers jours, voyez. Alors, voyez maintenant le débordement des derniers jours. Verset 40 encore, Daniel 11. « Et au temps de la fin, le roi du Midi heurtera contre lui. » Donc, ce roi du verset 36. Et le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec beaucoup de navires, et entrera dans le pays et inondera, une inondation, inondera et passera outre. Et il viendra dans le pays de beauté, et plusieurs pays tomberont, etc., etc. C'est donc la dernière catastrophe pour Israël qui est décrite ici au dernier jour, où le roi du Nord va déborder, inonder au pays d'Israël, le pays de la beauté. Donc, et la fin en sera, sera avec débordement, veut dire la fin de cette série de jugements sur le peuple Israël sera par cette inondation militaire du roi du Nord. Qui est le roi du Nord? Dans la prophétie accomplie, Daniel 11, 1 à 35, le roi du Nord était toujours la Syrie. Toujours. Et l'autre terme dans ce texte, le roi du Midi, c'était toujours l'Égypte. Vous voyez, vu depuis Israël, l'Égypte au sud et la Syrie au nord. Donc on peut dire, ce débordement sera une attaque terrible par l'armée de la Syrie. Et nous allons encore voir cet après-midi que ce sera une attaque avec une coalition énorme. Car par exemple, Joël 2, verset 1 et suivant, parle de cette attaque du Nord au dernier jour. Et le texte dit, il n'y a jamais eu avant une attaque avec un si grand peuple contre Israël comme il y aura lieu là en Joël 2. Donc, une inondation totale du pays. Nous comprenons maintenant le texte mieux. Il y a donc une série de jugements sur le peuple juif après la mort du Messie qui a commencé à l'an 70, destruction de la ville et du lieu saint. Et la fin en sera avec débordement, donc par cette attaque terrible et destructif de la Syrie dans les derniers jours. Et nous allons voir en Daniel 11, à la fin, que c'est le moment où finalement le Messie vient comme juge du monde, pour aussi juger cette armée qui viendra contre Israël. Donc là, nous sommes effectivement à la fin. Lisons la suite. Et la fin en sera avec débordement. 9:26c. Et jusqu'à la fin, il y aura guerre, un décret de désolation. N'est-ce pas, nous avons vu, le commencement de ces jugements était la destruction par les Romains de Jérusalem. La fin en sera l'inondation, le débordement de la Syrie. Et maintenant le texte dit, et jusqu'à la fin, il y a donc toute une chaîne de guerres terribles. Et jusqu'à la fin, il y aura guerre, un décret de désolation. Et nous pouvons voir en détail l'histoire de Jérusalem depuis l'an 70 jusqu'à nos jours. Et c'est une histoire d'une série de destructions et de guerres sur Jérusalem à travers les siècles. Dans mon livre « Jérusalem et le drame du Temple », je donne toute une liste de ces guerres et de ces destructions de Jérusalem. Jusqu'à la fin. Eh bien, nous continuons. Verset 27. Et il confirmera une alliance avec la multitude pour une semaine. C'est un nouveau un peu mystérieux, n'est-ce pas? Qui est ce « il » qui confirmera une alliance? Ça doit être une personne qui, dans le texte de Daniel, est déjà connue, qui était déjà mentionnée. Eh bien, nous avons déjà mentionné, verset 26b, le peuple du prince qui viendra. Nous l'avons déjà identifié, ce sera le dernier dictateur du royaume romain au dernier jour. Et lui confirmera une alliance avec la multitude pour une semaine. N'est-ce pas? La prophétie parle de 70 semaines. Et jusqu'à présent, nous avons seulement considéré 69. Il y a encore une 70e semaine. Et pendant cette dernière semaine, Daniel, il y a là une alliance de ce prince romain avec la multitude. Donc, nous comprenons, il y a toute une période entre la 69e semaine d'année de Daniel et la 70e. Et il n'est pas juste de dire seulement par le Nouveau Testament, nous pouvons voir qu'il y a ici donc une parenthèse. Mais déjà le texte biblique de Daniel explique que la 70e, elle est renvoyée. Il y a là donc toute une série de guerres et de destructions depuis la destruction de Jérusalem en 70 jusqu'au dernier jour. Donc cela montre la 70e est renvoyée pour le temps de la fin. Et là, il faut donc un royaume romain à cette époque-là. Il faut qu'il y ait de nouveau donc un changement dans le territoire qui était autrefois le royaume romain, mais qui a été divisé complètement pendant des siècles. N'est-ce pas? Cette unité a été perdue à partir du 5e siècle après Jésus-Christ, lorsque les barbares sont venus et ils ont commencé à diviser l'unité de l'ancien empire romain. L'ancien empire romain. Et alors, dans les derniers jours, cette division devrait prendre fin. Et là, il est quand même assez intéressant que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'histoire européenne a quand même bien changé. Et déjà, les visionnaires d'une nouvelle Europe avaient une idée claire. Par exemple, Luce, il y a des dizaines d'années, il avait expliqué l'unité de l'Europe. Et avec ça, l'Empire romain, il ne faut l'unité de l'Europe, il ne faut pas produire, mais il le faut refaire. Donc c'était vraiment la vision de reconstruire l'Empire romain. Et un des anciens secrétaires d'État de la Suisse, le docteur Blanchard, qui a également une vision pour l'Europe de l'avenir, il a dit il faut construire un empire romain saint des nations européennes. Donc une claire vision. Et nous sommes dans ce processus où donc le territoire qui, le noyau, faisait partie de l'Empire romain, se réunit. Et de cette terre va encore venir un dictateur terrible, révolté contre Dieu, et lui fera une alliance avec la multitude. Qui est la multitude? Eh bien, il faut rester dans le texte de Daniel, parce qu'il reparle de cette multitude. C'est un terme technique dans la prophétie de Daniel. Et vous le retrouvez, par exemple, en Daniel 11. Et ce terme désigne toujours la masse du peuple juif. Et voilà, par exemple, au chapitre 11, verset 33, et plusieurs fois au chapitre 11, ce terme, la multitude, désigne le peuple juif. Et les sages du peuple enseigneront la multitude. La prophétie est accomplie littéralement dans ces versets, et nous savons exactement ce que c'était. Les sages étaient les sages du mouvement des Maccabées, qui ont encouragé les Juifs au IIe siècle avant Jésus-Christ
à rester fidèles à Dieu malgré les persécutions syriennes de l'époque. Donc, ils ont enseigné la multitude, donc la foule du peuple juif. Et au chapitre 12, lisez le chapitre, vous allez retrouver ce terme, la multitude, comme un terme pour Israël. Cela nous aide à comprendre ce texte très dense et aussi un peu mystérieux. Il confirmera une alliance avec la multitude, donc avec Israël, pour une semaine, pour 7 ans. Si nous prenons le texte de l'Apocalypse, nous pouvons bien comprendre ce dictateur à venir. C'est la première bête en Apocalypse 13. Et ce chapitre parle d'une deuxième bête à la fin, dans le dernier paragraphe d'Apocalypse 13, et c'est une bête qui sort de la terre et qui ressemble à un agneau. Et ces deux travaillent ensemble. C'est la deuxième bête qui ne sort pas de la mer, qui est dans la Bible souvent une image pour les nations, les païens, sort en contraste de la terre, c'est-à-dire d'une nation qui est en contraste avec les nations, avec les païens d'Israël. Il s'agit là, effectivement, de l'Antichrist, du faux Messie des derniers jours. Et ils travailleront ensemble. Donc nous comprenons, la dictature romaine des derniers jours fera une alliance avec Israël, mais Israël sous l'Antichrist. D'ailleurs, où est-ce qu'on trouvera l'Amérique dans tout cela? C'est assez simple à répondre. N'est-ce pas? Hier soir, j'ai déjà expliqué, lorsqu'on prend le terme Babylone, il faut toujours trouver d'abord où se trouve le noyau du territoire d'un certain royaume. Et le noyau de l'Empire babylonien, qui s'étendait parfois jusqu'en Égypte, donc jusqu'en Afrique, le noyau est au sud de l'Irak. C'est ça le noyau. Mais autrement, les frontières pouvaient s'élargir et de nouveau diminuer. On a aussi parlé hier soir de l'Empire assyrien. Et j'ai expliqué, le noyau de l'Empire assyrien se trouvait au nord de l'Irak, avec les villes comme Ninive, etc. Donc c'est là le noyau. Mais l'Empire assyrien pouvait dominer au cours de l'histoire sur tout le Proche-Orient, c'est clair. Mais il faut trouver le noyau. C'est la même chose pour l'Empire romain. Il faut que là, le noyau de cet empire soit le même dans le passé et comme dans l'avenir. Mais quant aux dimensions, ça peut bien varier. Alors, les Américains, ils seront... c'est pas un problème qu'ils soient aussi associés, puisque l'Amérique, c'est simplement une extension de l'Europe. Oui, les ancêtres étaient d'abord en Europe et ça ne leur plaisait pas, alors ils sont sortis. Alors, ce qui est important, c'est simplement de voir où est le centre, le noyau. Et là, ça nous comprenons et ça fait déjà partie d'un empire assez important aujourd'hui. Mais le développement est toujours en cours. Mais nous sommes déjà plus actuels que le journal de demain. Il y aura donc une alliance entre, disons, l'Europe, etc., avec Israël. C'est un peu étonnant, n'est-ce pas, parce que les mass médias aujourd'hui, ils ne sont pas tellement pour Israël. Mais c'est pas tout à fait juste. Ça dépend toujours qui règne en Israël. Si c'est une personne qui est gauchiste, et qui n'a pas de relation avec, intérieure avec l'Ancien Testament. Alors, on les aime assez, assez bien, comme Rabin, qui était, lui, tout à fait un homme agnostique. La Bible n'était pas la parole de Dieu. Il a même, au jour de son meurtre, il avait chanté un cantique qui était une période défendue à la radio israélienne, parce qu'elle est tellement terrible. Elle dit, nous faisons la paix, mais il ne faut pas réciter des prières. Donc, nous faisons la paix, mais nous n'avons pas besoin de Dieu. Donc, des personnes comme ça, ils sont bienvenus en Europe. Mais on a des problèmes avec des personnes qui mettent la main sur la parole de Dieu et sur les promesses que Dieu a faites à son peuple. Ça, on n'aime pas. Alors, cette alliance sera avec Israël sous l'Antichrist. Donc, un homme rebelle contre Dieu. Et là, il n'y a pas de problème pour l'Europe. Et comprenons bien, le développement depuis la Deuxième Guerre mondiale est un développement où l'Europe a décidé de quitter la tradition chrétienne. Ce n'est pas un empire qu'on crée avec des fondements du christianisme. Alors, il confirmera une alliance avec la multitude pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Tiens. Après 3 ans et demi, n'est-ce pas, au milieu de la semaine, les sacrifices cesseront. Eh bien, ça pose quelques questions que nous allons revoir après la pause.
Comme ça, au moins, vous n'allez pas partir.
Nous avons parlé de la dernière semaine de Daniel, période où le prince futur ou le dictateur futur de l'Empire romain des derniers jours confirmera une alliance avec Israël sous la domination de l'Antichrist. Et nous allons encore voir cet après-midi que cette alliance sera une alliance de sécurité pour Israël d'un danger militaire. Nous comprenons bien, ayant déjà un peu lu en Daniel 11, 40, que le roi du Nord, la Syrie, va attaquer terriblement Israël et va même inonder tout le pays. Donc, cette alliance sera donc une alliance de sécurité contre un autre bloc qui se met contre Israël. Mais dans cette période, il est dit, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Voilà, ça pose quelques questions. Si des sacrifices vont cesser, il y aura d'abord des sacrifices. Mais le temple a été détruit à l'an 70, et depuis le peuple juif n'a plus jamais eu les sacrifices, puisque depuis le peuple juif n'a plus jamais eu un temple à Jérusalem. Même que dans le judaïsme, on prie chaque jour 3 fois pour la reconstruction du temple. Depuis l'Antiquité. Et Dieu n'a plus jamais répondu à cette prière. Mais pourquoi on n'a pas fait des sacrifices? Parce que la loi de Moïse, la Torah, explique bien en Deutéronome 12, 13 à 14, qu'il y a seulement un seul lieu choisi par Dieu pour apporter des sacrifices et des offrandes. Et nous savons, par l'histoire de l'Ancien Testament, que ce lieu choisi était sur le mont de Sion, à Jérusalem, Et David avait reçu la révélation que c'est bien là le lieu où il faut bâtir le temple. Voilà pourquoi Salomon, son fils, avait bâti le premier temple sur le sommet du mont de Sion. Le sommet naturel de cette montagne, cette colline, et le rocher qui se trouve actuellement dans le dôme du roc. Et voilà, puisque le peuple juif a perdu la place du temple à l'an 70 et l'a plus jamais obtenue depuis, jusqu'en 1967, guerre de six jours, on n'a plus jamais pu faire des sacrifices, puisqu'il n'y a pas d'alternative sur la planète. Il faut ces quelques mètres carrés. Et aujourd'hui, on sait exactement même où se trouvait l'emplacement de l'autel. C'est juste vers le sud-est, en dehors du dôme du roc. C'est d'ailleurs une place libre, hein. On pourrait tout de suite faire quelque chose. Mais, donc, le désir profond dans l'âme juive de refaire les sacrifices, mais impossible jusqu'à nos jours, mais un changement important a eu lieu, 1967, conquête du mont du Temple. Mais là, Moshe Dayan avait tout de suite dit, lorsque le rabbin militaire, Shlomo Goren, a voulu mettre une bombe à la mosquée, « Arrête, ça n'en fait pas. » Donc, c'était impossible pour les orthodoxes de reconstruire un temple, mais depuis se sont formés plusieurs mouvements juifs pour rebâtir le temple, et on a fait une très grande partie des ustensiles du temple déjà. J'ai vu moi-même la table d'or. J'ai vu moi-même la table d'or des pains de proposition, l'autel d'or des parfums et également le chandelier d'or préparé pour le troisième temple. Et beaucoup d'autres ustensiles du temple. Ils sont préparés. On prépare déjà maintenant des sacrificateurs, des descendants d'Aaron, etc., etc. Seulement, le moment n'est pas encore venu où on aurait pu construire au moins l'autel sur la place du temple. Mais nous comprenons, le texte sous-entend des sacrifices vont revenir, donc il y aura un troisième temple. Mais nous voyons que ce dictateur de l'Empire romain à venir, lié avec l'Antichrist, sera un ennemi de ce mouvement du troisième temple. Donc, ceux qui vont refaire les sacrifices, ce sont donc des Juifs qui sont appelés dans l'Ancien Testament à plusieurs reprises le résidu d'Israël. Donc il y aura un reste en Israël qui se réveillera dans les derniers jours et reconnaîtra même finalement que Jésus était le Messie, puisqu'il a accompli la prophétie. Donc ils vont refaire des sacrifices, mais après 3 ans et demi, pendant cette période de cette alliance, ça sera stoppé. Pourquoi? Le Seigneur l'explique en Matthieu 24, 15. En parlant sur le mont des Oliviers, des événements à venir et des signes qui font partie d'abord du commencement des douleurs, verset 8. Alors le Seigneur dit au verset 15, « Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation dont il a été parlé par Daniel le prophète, nous allons faire un lien avec notre texte. Établi dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui est sur le toit ne descende pas pour emporter ses effets hors de sa maison, et que celui qui est au champ ne retourne pas en arrière pour emporter son vêtement. Verset 20. « Et priez que votre fuite n'ait pas lieu en hiver ni un jour de sabbat, car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours-là n'eussent été abrégés, nulle chair n'eût été sauvée. Mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. » Alors, nous voyons le point de départ de la grande tribulation qui sera donc la période la pire de l'histoire humaine, verset 21, commencera par une abomination mise dans le lieu saint, donc sur l'esplanade du temple. Et cela nous aide déjà à comprendre pourquoi les sacrifices vont cesser. Nous avons lu en Daniel 9, 27, « Et il confirmera une alliance avec la multitude pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et à cause de la protection des abominations, il y aura un désolateur. » Alors là, le Seigneur parle d'abomination. Et le texte parle d'abomination, et le Seigneur a parlé d'abomination dans le lieu saint. Le terme abomination est souvent utilisé dans l'Ancien Testament pour désigner une idole. Donc, une idole sera mise sur l'esplanade du temple, et là, nous savons exactement ce qui va se passer. Dans l'histoire, ça s'est fait déjà une fois, avant l'ère chrétienne. Et voilà Daniel 11, vous pouvez lire à la maison, Daniel 11, dans la partie accomplie, on parle, verset 31. Et ça s'est accompli à l'époque d'Antiochus Épiphane, le roi de la Syrie, qui avait mis une idole avec les traits de Zeus, et avec les traits de lui-même, mais c'est une idole Zeus, s'identifie avec Zeus, et il l'a laissé mettre vers l'autel du deuxième temple. Et alors les Juifs ont tout de suite arrêté à sacrifier, puisque le temple a été rendu impur à l'époque. Donc, nous comprenons comment ce dictateur va faire cesser les sacrifices, c'est en mettant une idole sur l'esplanade du temple. Alors, la conséquence est tout de suite là, on ne peut plus sacrifier. Eh bien, nous avons déjà parlé un peu d'Apocalypse 13. Là, nous avons vu la première bête, donc le dictateur romain de l'Empire romain futur. 13, verset 1er et suivant. Et dans la deuxième partie de ce chapitre, à partir du verset 11, nous trouvons une deuxième bête comme un agneau, mais qui parle comme un dragon. Et cette deuxième bête, c'est donc l'Antichrist, comme nous avons déjà vu, donc qui s'assimile à Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Mais cette personne fera une idole, qui sera donc une image de la première bête. Donc, le dictateur romain se fait adorer sous forme d'une idole qui parle. Voilà, ce sera le sommet de l'histoire de l'occultisme et de l'ésotérique. Eh bien, l'Antichrist, c'est donc lui qui mettra cette idole sur l'esplanade du temple. Maintenant, nous lisons en Daniel 11. Je répète, les versets 1 à 35 sont accomplis à la lettre dans le passé. À partir du verset 36, nous faisons un saut jusqu'au dernier jour. Et là, nous trouvons le dernier roi, homme au pouvoir en Israël. Et le roi agira selon son bon plaisir et s'exaltera et s'élèvera contre tout Dieu et proférera des choses impies contre le Dieu des dieux, donc contre le vrai Dieu. Et il prospérera jusqu'à ce que l'indignation soit accomplie, car ce qui est déterminé sera fait, et il n'aura point égard au Dieu de ses pères. Ça montre que c'est un juif. Le Dieu de ses pères, c'est toujours le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc c'est un Israélite. Et il n'aura point égard au Dieu de ses pères. Et il n'aura point égard à l'objet du désir des femmes. Qui était l'objet du désir des femmes? C'était le Messie. Chaque femme juive avait le désir de peut-être devenir la mère du Messie. Et ce désir des femmes est ici considéré comme Dieu. N'est-ce pas? Il est dit, le texte explique. Et il n'aura point égard au Dieu de ses pères, et il n'aura point égard à l'objet du désir des femmes, ni à aucun Dieu. Vous voyez, le Messie, un homme, puisqu'il devrait être un fils de l'homme, un fils des hommes, nous sommes toujours issus de deux personnes, fils de l'homme, d'une femme, et en même temps il sera Dieu. Égard à l'objet du désir des femmes, ni à aucun Dieu, car il s'agrandira au-dessus de tout. Et à sa place, il honorera le Dieu des forteresses. Tiens. Donc il se révèle contre tout qui est appelé Dieu, à une exception, le Dieu des forteresses. Plus tard dans l'histoire, après Daniel, on a compris ce que c'est le Dieu de la forteresse. C'était Jupiter Capitolinus, Jupiter de la forteresse du Capitole à Rome. Ça, c'est le dieu de la forteresse. Donc, il vénère aucun dieu, il se met lui-même au-dessus de tout dieu, donc il se présente comme un dieu, mais en plus, il vénère le dieu des forteresses, Jupiter. Donc, nous allons voir le dictateur romain à venir s'identifiera avec Jupiter, le grand dieu des Romains. Et il laissera construire une idole qui le représente, et l'Antichrist, le faux Messie en Israël, mettra cette idole sur l'esplanade du Temple. Mais nous lisons exactement le texte. Il est dit en Daniel 9, 27, « Et à cause de la protection des abominations, il y aura un désolateur. » C'est au pluriel. Le Seigneur dit en Matthieu 24, 15, « Lorsque vous verrez l'abomination dans le lieu saint de laquelle a parlé Daniel, » Mais ici, c'est un pluriel. Donc, il faut cette idole et il faut encore une chose. Lisons 2 Thessaloniciens 2, où l'apôtre Paul parle à des jeunes croyants des derniers jours, et il parle de l'Antichrist. Je lis 2 Thessaloniciens 2, verset 3. « Que personne ne vous séduise. » En aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et que l'homme de péché n'ait été révélé. et le fils de perdition, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est un objet de vénération. Vous voyez, c'est clairement une allusion à Daniel 11, 36 et suivant. C'est l'Antichrist. Donc, le dernier chef en Israël, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu. Alors, le Seigneur dit aux Juifs croyants, Matthieu 24, quand vous verrez l'abomination dans le lieu saint, donc sur l'esplanade du temple, c'est quelque chose qu'on peut voir. C'est une idole qui est mise dans les cours du troisième temple. C'est visible extérieurement. Mais lorsque l'Antichrist, cet impie, se mettra au temple, et le terme grec c'est naos, c'est le temple proprement dit, la maison, donc pas l'esplanade. Dans le Nouveau Testament, il y a un autre terme, hieron, qui désigne tout l'esplanade. Ici, c'est naos, donc le temple proprement dit. Il se mettrait dans le lieu très saint. Et ça, on ne peut pas voir comme juif normal. Ils verront seulement une de ces deux abominations. Mais nous avons au troisième temple à Jérusalem deux abominations. Une idole visible, en dehors, dans les cours, et l'Antichrist qui se mettra dans le temple de Dieu, dans le temple proprement dit de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que quand j'étais encore auprès de vous, je vous disais ces choses. Et maintenant, vous savez ce qui retient pour qu'il soit révélé en son propre temps. Car le mystère d'iniquité opère déjà, seulement celui qui retient maintenant le fera jusqu'à ce qu'il soit loin. Et alors sera révélé l'inique que le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de sa venue. Duquel la venue est selon l'opération de Satan, en toutes sortes de miracles et signes et prodiges, de mensonges, en toute séduction d'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et à cause de cela, Dieu leur envoie une énergie d'erreur pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux-là soient jugés qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Alors, nous comprenons, l'Antichrist se mettra dans le temple proprement dit. Mais la masse en Israël acceptera cette profanation du temple. C'est pour ça notre texte, tellement dense en Daniel 9, dit « Et à cause de la protection des abominations, il y aura un désolateur. » Donc, puisque la masse en Israël acceptera ça, protégera, c'est juste que ce soit fait comme ça, alors Dieu amène un jugement. Un désolateur va venir. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et jusqu'à ce que la consomption et ce qui est décrété soient versés, n'est-ce pas? C'est nouveau, le liquide qui est versé sur la désolée. Donc, ce désolateur qui va inonder Israël sera la réponse divine pour une nation apostate en Israël qui acceptera cette profanation. Mais le Seigneur, en Matthieu 24, explique aux juifs croyants de l'époque, de cette époque, alors si vous verrez l'abomination dans le lieu saint, il faut prendre la fuite. Donc il faut aller à l'étranger, sur les montagnes, et sortir, avec ça, sortir du pays. Pourquoi? Parce qu'il y aura une attaque terrible qui inondera tout le pays d'Israël. Et maintenant, nous comprenons, je lis encore une fois dans Daniel 11, 40, parce que ça se couvre, verset 40. Et là, il est nouveau utile de lire la version très littérale de Darby. Et au temps de la fin, le roi du Midi, l'Égypte, heurtera contre lui. C'est donc ce roi, verset 36 à 39, l'Antichrist. Il y aura une attaque égyptienne contre Israël, sous l'Antichrist, sous le faux Messie. Car Antichrist, ce terme se trouve en 1 Jean 2, 18 et suivant, veut dire en grec « celui qui est contre Christ, le Messie ». Ou « anti » en grec signifie aussi « à la place de ». Donc celui qui se met à la place du Messie, c'est le faux Messie des derniers jours, vous voyez. Alors, l'Égypte attaque Israël. Israël est concentré sur le sud, ce qui donne l'occasion au nord. Et le roi du nord fondra sur lui. Ce n'est pas l'Égypte, c'est toujours l'Antichrist. Comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec beaucoup de navires, et entrera dans le pays et inondera. Verset, débordement. Et entrera dans le pays et inondera. Verset, débordement. Et passera outre, et il viendra dans le pays de beauté, et plusieurs pays tomberont. Donc, ce sera une guerre qui implique tout le Proche-Orient. Mais ceux-ci échapperont de sa main. Édom, qui se trouve au sud de la Jordanie actuelle. Et Moab, qui se trouve au milieu de la Jordanie actuelle. Et les principaux des fils d'Ammon. Ammon, c'était la région au nord de la Jordanie actuelle. Donc, la Jordanie nord sera partiellement attaqué. Mais Moab et Édom seront les régions qui seront épargnées. Et vous comprenez, les Juifs qui devront prendre la fuite sur les montagnes lorsqu'ils verront l'abomination à Jérusalem, donc ils vont sur les montagnes et passeront outre à Moab, en Jordanie, pour être protégés de la catastrophe. Eh bien, je continue dans le texte 41. Édom et Moab et les principaux des fils d'Ammon. Et il étendra sa main sur les pays. Et le pays d'Égypte n'échappera pas. Donc, cette coalition du nord, sous la direction de la Syrie, attaquera même l'Égypte. Et il aura sous sa puissance les trésors d'or et d'argent. Et toutes les choses désirables de l'Égypte. Et les Libyens et les Éthiopiens suivront ses pas. Donc, il sera même, ce roi du Nord, la Syrie, sera aussi allié avec la Libye, juste à côté de l'Égypte. Et le terme traduit ici avec les Éthiopiens, c'est le terme hébreu « Kush ». Kush, dans l'Ancien Testament, signifie « la région au sud de l'Égypte ». Donc, le Soudan, l'Éthiopie et aussi Érythréa. Donc, c'est un terme un peu vaste, mais qui désigne la région au sud de l'Égypte. Il est intéressant, n'est-ce pas? La Syrie est islamique. La Libye est islamique, le Soudan également. Et tous ceux-là seront ensemble, mais là, contre l'Égypte. Ce qui n'étonne pas, parce que le monde islamique n'a jamais pu avoir une vraie unité. N'est-ce pas? Il y a toujours les querelles internes. Alors, on pourrait même créer une carte de combat, n'est-ce pas? Parce qu'il arrive avec des navires, donc sur la Méditerranée, sur la terre, parle à travers le pays d'Israël pour entrer en Égypte et l'aide des Libyens et du Soudan, on peut montrer sur la carte. Et lorsqu'il sera en Égypte, qu'est-ce qu'il fait? mais des nouvelles de l'Orient et du Nord l'effrayeront, et il sortira en grande fureur pour exterminer et détruire entièrement beaucoup de gens. Et il plantera les tentes de son palais entre la mer et la montagne de sainte beauté. Donc, l'armée syrienne, ou la coalition syrienne, se mettra en Égypte, mais ils entendront des bruits de l'Orient, donc une intervention qui va venir de l'Est, et des bruits du Nord. Alors, montant depuis l'Égypte au Nord, bien sûr, si l'Empire romain futur est allié avec Israël sous l'Antichrist, il faut que les forces militaires se mettent au Proche-Orient. Alors, c'est une mauvaise nouvelle pour la Syrie. Donc, les bruits du Nord l'effrayent. Et qu'est-ce que nous lisons en Apocalypse 16? Que l'Empire romain futur, ils vont se rassembler à Armageddon. Où se trouve Armageddon? C'est facile à trouver. C'est une plaine énorme, une grande plaine au nord d'Israël, en Galilée, derrière Haïfa. Donc, c'est une place qui est vraiment bien destinée pour recevoir un rassemblement d'armées. Et d'ailleurs, dans notre époque, le port de navire n'est plus au sud, donc à Joppé, au sud de Tel Aviv, comme dans l'Antiquité, mais à Haïfa. C'est là le port militaire actuel. Donc, la plaine, la vallée de cette plaine énorme d'Armageddon, la vallée de Jézréel, aussi appelée, est bien placée pour des navires venant de l'Ouest, donc de l'Europe. En plus, si vous êtes sur le Carmel, à un certain endroit, vous voyez très bien un des plus grands aéroports militaire d'Israël dans la plaine d'Armageddon, avec des pistes dans toutes les directions. Donc c'est également, d'un point de vue militaire, c'est très bien pour recevoir aussi les avions. Mais nous avons lu, donc le roi du Nord en Égypte est effrayé, donc il retourne. Pourquoi? Il a peur de perdre le pays d'Israël qu'il avait déjà conquis. Qu'il aura déjà à avoir conquis. C'est un peu difficile de parler de l'avenir. Et alors il revient et il se mettra donc entre la mer et la montagne de sainte beauté. La mer, c'est la Méditerranée. Et la montagne de sainte beauté, c'est le mont de Sion, le mont du Temple. Donc il veut rester dans sa position qu'il a conquis. Nous comprenons maintenant que cette attaque du Nord a comme but, entre autres, de prendre le mont du Temple de la main juive. Donc il revient, et cette position-là est au sud d'Armageddon. Vous voyez, donc l'armée de l'Empire romain à Armageddon au nord, et il revient pour fortifier sa position au sud entre la Méditerranée et Jérusalem. Le texte continue, et il viendra à sa fin, et il n'y aura personne pour le secourir. Vous pouvez lire le passage parallèle en Joël 2, où on trouve cette attaque du Nord par une armée si grande comme on n'a jamais vu en Israël, venir contre Israël, qui passera à travers tout le pays. Devant cette armée, le texte dit, le pays est comme le jardin d'Éden. Et derrière, brûlé. Et ensuite, dans ce texte, il est dit que les Juifs vont se rassembler sur l'esplanade du Temple. Pas pour sacrifier, mais je vous lis en Joël 2, Joël 2, verset 2. Sonnez de la trompette, en, verset 1er. Sonnez de la trompette en Sion. Sonnez avec éclat dans ma sainte montagne. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient. Car il est proche, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et d'épaisses ténèbres. C'est comme l'aube qui s'étend sur les montagnes. Un peuple nombreux et fort, tel qu'il n'y en a eu jamais, et qu'après lui, il n'y aura point jusqu'aux années des générations et des générations. Devant lui, un feu dévore, et une flamme brûle après lui, etc. Ou devant lui, le pays est comme le jardin d'Éden, et après lui, la solitude d'un désert, etc. Ensuite, nous lisons verset 12. « Ainsi encore maintenant, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec jeûne et avec pleurs et avec deuil, et déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est plein de grâce et miséricordieux, lent à la colère et grand en bonté, et il se repent du mal dont il a menacé. » Qui sait ? Il reviendra et se repentira et laissera après lui une bénédiction, une offrande et une libation à l'Éternel, votre Dieu. Vous voyez, ils ne peuvent plus apporter des offrandes. Et si le peuple retourne à Dieu, peut-être ils vont revenir, les offrandes. Verset 15. « Sonnez de la trompette en Sion, sanctifiez un jeûne. » Convoquez une assemblée solennelle, assemblez le peuple, sanctifiez la congrégation, réunissez les anciens, assemblez les enfants et ceux qui têtent les mamelles. Que l'époux sorte de sa chambre et l'épouse de sa chambre nuptiale. Que les sacrificateurs, les serviteurs de l'Éternel pleurent entre le portique et l'autel. Oui, on peut exactement placer où ça se trouve. Aujourd'hui sur l'esplanade du temple. Là, c'était toujours une région très sainte dans le temple, entre le temple proprement dit avec le portique et l'autel. Là, les sacrificateurs se placent, pas pour sacrifier, mais que les serviteurs de l'Éternel pleurent entre le portique et l'autel et qu'ils disent « Épargne ton peuple, ô Éternel ». Et ne livre pas ton héritage à l'opprobre, en sorte qu'il soit le proverbe des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Alors l'Éternel sera jaloux pour son pays, et aura pitié de son peuple. Et l'Éternel répondra et dira à son peuple, voici, je vous envoie le blé et le moût et l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Et j'éloignerai de vous celui qui vient du nord, et je le chasserai dans un pays aride et désolé, sa face vers la mer orientale et son arrière-garde vers la mer d'Occident. Et sa puanteur montera et son infection montera parce qu'il est élevé pour faire des grandes choses. Donc Dieu va intervenir et détruire cette armée. Vous comprenez maintenant pourquoi le Seigneur Jésus va revenir, Zacharie 14, 3, sur le mont des Oliviers. Et là, il va détruire le roi du Nord, la Syrie. Mais vous avez appris que le Seigneur va revenir à Armageddon, n'est-ce pas? C'est juste, en Apocalypse 19, là, le Seigneur arrive pour détruire les armées de l'Empire romain futur. Et ça, c'est à Armageddon, mais c'est une autre phase de sa venue. Donc, le Seigneur Jésus reviendra à la fin de la grande tribulation de 3 ans et demi pour sauver le reste de son peuple. Il détruira cette coalition du roi du Nord. Il détruira les armées également de l'Empire romain à Armageddon. Et pour compliquer la chose, Ésaïe 19 dit que l'Éternel vient en Égypte. Il s'agit de la venue de Christ, si vous lisez le texte. Mais où est-ce que l'Éternel va venir? Sur le mont des Oliviers, à Armageddon, en Égypte? Mais on peut ajouter encore. il est dit en Habacuc 3 que Dieu vient de la montagne de Paran. Et c'est là vers le sud de la Jordanie. Ésaïe 63, Dieu vient d'Édom, c'est le sud de la Jordanie. Vous voyez, le retour de Christ se fera en plusieurs phases. Ce n'est pas simplement Armageddon fini. Mais Daniel 11 se concentre donc sur l'armée de la Syrie et finit donc le chapitre. Et il plantera les tentes de son palais entre la mer et la montagne de sainte beauté. Et il viendra à sa fin et il n'y aura personne pour le secourir. Alors Israël sera sauvé par la venue du Seigneur. Et cela est absolument conforme à Matthieu 24 qui finit donc ce discours sur la grande tribulation qui commence par l'idole placée sur l'esplanade du temple, Matthieu 24, 15. Et voilà, ça termine au verset 29. Et aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil sera obscurci, et la lune ne donnera pas sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées, et alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Maintenant, le schéma est accompli. Donc, l'Empire romain fait une alliance de 7 ans avec Israël. Après 3 ans et demi, le troisième temple qui sera rebâti à Jérusalem est profané. Conséquence, les croyants juifs vont prendre la fuite en Jordanie et la coalition du Nord va inonder tout le pays d'Israël. Ça va déclencher donc toute une guerre mondiale. Déjà, c'était assez compliqué, je pense, mais c'était toujours simplifié. Parce qu'il y a encore d'autres lignes, n'est-ce pas? Je n'ai pas parlé de ceux qui vont venir de l'Orient pour intervenir. Il y a plus, je n'ai pas encore parlé de ceux qui vont venir encore du nord extrême. Ézéchiel 38, Gog, Roche, Mézec et Tubal. Je n'ai pas encore parlé de ça, mais simplement pour montrer, la catastrophe commence par cette attaque de la Syrie contre Israël et ça va déclencher une guerre mondiale. Le Seigneur dit, le pire des temps de l'humanité. Et à la fin de 3 ans et demi, le Seigneur Jésus lui-même va intervenir pour apporter la paix et la justice. Et voilà, après 70 semaines, tout sera changé. Les prophètes seront scellés, un sanctuaire sera oint, donc le troisième temple sera purifié, et le pardon va venir pour le résidu d'Israël qui se tournera vers le Messie. Zacharie 12, verset 10, « Ils regarderont vers moi celui qu'ils ont percé. » Alors, ça nous donne, pour ce matin, simplement un survol global de la prophétie et nous allons continuer cet après-midi. C'est donc le moment maintenant pour poser encore quelques questions. Et n'ayez pas peur, ça ne fait pas partie des cassettes. Ça ne devrait pas faire partie.